Bienvenue au podcast et à ce nouvel épisode intitulé « Pourquoi croyons-nous aux neuromythes ?» Je suis Christophe Dereca, une approche différente de la formation. Vous serez sans doute d'accord, dans notre métier, que l'on soit formateur ou formatrice, consultant ou facilitateur, facilitatrice, les neuromythes sont omniprésents. Récemment, lors d'une formation en présentiel, j'ai dû aider mes apprenants, eux-mêmes formateurs, à se débarrasser d'un neuromythe bien connu. Celui des modes préférentiels d'apprentissage. Ce mythe, comme beaucoup d'autres, persiste malgré l'absence de preuves et de recherches. Dans cet épisode, nous explorerons ensemble pourquoi et comment ces croyances s'installent dans nos esprits. Je vous amènerai à la découverte de leur origine en mettant en lumière les mécanismes cognitifs qui nous poussent à y croire. Nous parlerons aussi d'un autre neuromythe populaire, celui des cerveaux droit et gauche, et de ce que la science en dit réellement. Enfin, pour conclure, je partagerai un conseil pratique pour éviter de tomber dans le piège des neuromythes et rester vigilant face aux informations non validées. Installez-vous confortablement, car nous allons démêler ensemble le vrai du faux pour enrichir nos pratiques et mieux accompagner nos apprenants. Pourquoi croyons-nous aux neuromythes ? C'est un peu comme se demander pourquoi, enfant, nous avons cru au Père Noël. La réponse réside dans la manière dont notre cerveau traite les informations et évalue leur crédibilité. Quand nous développons une croyance, notre cerveau s'appuie sur deux éléments clés, les informations reçues et la confiance accordée à leur source. Si la source nous semble fiable, cela renforce l'idée que l'information est vraie. Prenons l'exemple du Père Noël, c'est bientôt Noël. Si vos parents, des figures d'autorité pour un enfant, vous disent qu'il existe, vous les croyez, cela ajoute du poids à cette croyance. Plus vous recevez d'informations cohérentes sur son existence, les cadeaux de Noël sous le sapin, les histoires de Noël, plus cette idée s'ancre dans notre esprit. Puis à un moment donné, des informations contraires émergent. Des camarades d'école ou des personnes plus âgées expliquent que le Père Noël n'est qu'un mythe. Progressivement, ces nouvelles données supplantent les précédentes et notre croyance change. Il en va de même pour les neuromythes. Moi-même, au début de ma carrière, j'ai cru à l'idée des modes préférentiels d'apprentissage. On lisait et entendait partout que chaque individu apprenait mieux d'une manière spécifique, visuelle, auditive ou kinesthésique. Certains allaient jusqu'à dire qu'un enfant échouant à l'école, c'était parce que son enseignant n'avait pas adapté sa pédagogie à son style d'apprentissage. Ces idées, répétées et véhiculées par des sources considérées comme crédibles, ont fini par s'imposer. Et comme pour le Père Noël, c'est seulement en accumulant des preuves contraires que nous pouvons commencer à douter et finalement abandonner ces croyances. Comme je le mentionnais dans mon introduction, j'ai récemment été confronté à un groupe de formateurs défendant la réalité des modes préférentiels d'apprentissage. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous avez probablement déjà lu ma position sur ce sujet. Pourtant, malgré l'absence de preuves solides, certains formateurs, notamment dans leur formation de formateurs, continuent d'affirmer que ces styles et modes d'apprentissage auraient un impact majeur sur la qualité de l'apprentissage. Dr Judy Julis, experte en neurosciences de l'apprentissage, qualifie cette croyance de neuromythe. Elle explique, et je cite, « Aucune recherche fiable n'a jamais démontré que des enseignements conçus pour correspondre à un style d'apprentissage testé sont efficaces parce qu'ils correspondent à ce style. » Elle souligne l'absence d'études comparant des groupes témoins avec et sans adaptation au style d'apprentissage. En clair, un soi-disant apprenant visuel ne réussira pas mieux grâce à une pédagogie axée sur des images que n'importe quel autre apprenant. Ce mythe persiste simplement par manque de preuves solides pour le soutenir. Cela dit, nous savons que diversifier les approches pédagogiques, visuelles, auditives, kinesthésiques, favorise l'engagement et l'apprentissage. La diversité, et non l'adaptation à un mode préférentiel, est la clé. Un autre neuromythe courant est celui des cerveaux droit et gauche. Il m'est même arrivé, lors d'une formation, qu'on me dise « Christophe, vous êtes clairement un cerveau droit ». Cette remarque, basée sur l'idée que les créatifs seraient cerveau droit et les analytiques cerveau gauche, ne repose sur aucune preuve scientifique. En réalité, des recherches récentes, comme celle de l'Université de l'Utah en 2004, montrent que nous utilisons nos deux hémisphères cérébraux pour toutes nos activités, qu'elles soient analytiques ou créatives. La théorie de la dominance cerveau droit-cerveau gauche appartient au passé. Cependant, elle est née de travaux légitimes, comme ceux du docteur Roger Sperry en 1981, sur des patients atteints d'épilepsie. Malheureusement, ces recherches scientifiques ont été généralisées à tort. Alors, comment éviter de se laisser piéger par les neuromythes ? La solution est de s'assurer que les informations que nous utilisons proviennent de recherches scientifiques validées, notamment par un processus appelé peer review, évaluation par les pairs. Voici comment cela fonctionne. Lorsqu'un chercheur termine une étude, il la soumet à une revue scientifique. Celle-ci confie l'évaluation à plusieurs experts indépendants dans le domaine. Ses pairs vérifient la rigueur méthodologique, la pertinence des résultats et la qualité de l'analyse. Si des failles sont détectées, par exemple une méthode douteuse ou des conclusions non justifiées, l'étude peut être rejetée. Ce processus garantit la fiabilité des publications scientifiques. Pour faire la distinction entre une idée populaire, comme par exemple prétendre que le soleil est jaune parce qu'il est composé de citron, et une donnée scientifique, vérifiez que l'information a été validée par des pairs. Sinon, méfiez-vous, elle risque d'être un simple neuromythe. J'espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous a apporté des éclairages utiles sur les neuromythes. Merci infiniment pour votre écoute et votre soutien. Si c'est votre premier passage ici, pensez à vous abonner pour ne manquer aucun des prochains épisodes. Pour encore plus de conseils pour formateurs, retrouvez-moi sur LinkedIn, Christophe Peuger, P-E-G-E-R, sur Facebook, Eureka, une approche différente de la formation, ou sur Instagram, Eureka-du-bas, formation de formateurs. Merci encore d'être là et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.